chers auditeurs, bonjour, merci d'être à l'écoute de Storia Voce, merci pour votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. En Russie, depuis l'année 2005, la journée du 25 octobre, anniversaire de la révolution bolchevique, n'est plus un jour férié. Il a été remplacé par la fête de l'unité de la nation, qui fait écho à un fait militaire du XVIIe siècle, la victoire en 1612 de Kouzma Minim et de Dmitri Pozharsky sur les troupes polonaises, une victoire qui fut le prélude de l'accession au pouvoir de la dynastie des Romanov. En remplaçant la référence à la révolution bolchevique par ce fait militaire, Vladimir Poutine déclarait à l'époque « Celui qui ne regrette pas la disparition de l'URSS n'a pas de cœur et celui qui réclame son retour n'a pas de tête ». Néanmoins, même si la Russie renvoie aux historiens la charge de traiter de la révolution d'octobre, 100 ans après les événements, le fondateur du communisme soviétique, Lénine, reste une sorte de mythe, un mythe qu'il faudrait séparer de la figure bien évidemment accablante de Staline. Storia Voce vous propose de comprendre aujourd'hui ce que le totalitarisme soviétique doit à la figure de Lénine. Pour ce faire, cette émission va s'attacher à évoquer non pas l'accession au pouvoir de l'homme qui a bouleversé le monde pendant près de 75 ans, mais son parcours. Vladimir Ulianov avant Lénine, tel est le sujet que nous allons aborder avec Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous êtes en ce moment partout dans la presse. Vous êtes historien, directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur de la revue Communisme qui vient de sortir un numéro spécial aux éditions Vendémiaire. Nous retrouverons plusieurs émissions des éditions Vendémiaire dans les prochaines semaines, mais je tenais à mentionner cette revue. Et vous venez de publier une biographie, donc Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Tout est dans le titre. Une biographie parue aux éditions Perrin. Alors nous allons découvrir ce personnage assez fascinant, et j'avoue que je ne connaissais pas la vie de Lénine. Je connaissais bien, on va dire, la période 1917-1924, mais j'ai souhaité donc m'adresser ou voir et étudier cette question de la jeunesse, du parcours. Et la première découverte que j'ai faite, c'est que je savais Lénine écrivain, mais alors Lénine est plus qu'un écrivain, parce que vous le dites dès votre introduction, 55 volumes en russe et 45 volumes en français. C'est dire si les sources sont innombrables.
On pourrait presque dire que c'est un graphomane, mais pas du tout. Hein, c'est presque 20 000 pages de textes en français, sont toutes des pages de combat politique, d'idéologie, de théorie économique, et puis évidemment à partir de la prise de pouvoir, de gouvernement, hein, d'ordre divers et variés, même si bien sûr ces œuvres de Lénine, quoique très nombreuses, comme vous l'indiquez, ne comprenaient pas, quand elles ont été publiées, forcément, tous les textes de Lénine, et en particulier, évidemment, après la chute de l'URSS en 1991, un certain nombre d'archives spéciales ont révélé des documents de Lénine qui, justement, n'avaient pas été mis dans ses œuvres, parce que c'était des documents un petit peu compromettants, nous dirons, et qui ont été d'ailleurs largement utilisés par mon collègue Nicolas Werth dans le livre noir du communisme que nous avons publié en 1997 et où il a fait toute la partie sur l'URSS et en particulier sur la période 1917-1922-23 quand Lénine était véritablement le patron.
Alors nous allons quitter ce pseudonyme de Lénine, nous allons l'expliquer tout à l'heure, mais nous allons découvrir qui était Vladimir Ilitch Ulianov. Et Vladimir Ilitch Ulianov est issu de la bourgeoisie moyenne.
Oui, il est né dans une famille d'abord de petits notables, dans une ville tout à fait du fin fond de la Russie, au bord de la Volga, Simbirsk, hein, dont Trotsky disait que vraiment c'était le trou le plus perdu de la Russie. Bon, et c'est une petite famille de petit notable au départ, puisque son père va être donc professeur des écoles, inspecteur des écoles primaires. Et puis, petit à petit, à force de travail, cette famille va devenir une vraie famille de notables à Simbirsk, de notables de la Russie tsariste des années 1870-80. Hein, c'est-à-dire une famille tout à fait orthodoxe, orthodoxe sur le plan religieux, bien sûr, orthodoxe sur le plan politique, ce sont des gens qui sont complètement qui adhèrent complètement au régime, et d'ailleurs ils sont tellement reconnus que finalement le tsar va anoblir le père de Vladimir Ilitch, Volodia pour les intimes, bon, et donc voilà, on a vraiment une famille qui est tout à fait reconnue, et Vladimir naît donc dans cette famille qui est une famille d'ailleurs d'intellectuels. Hein, le père, bien entendu, mais la mère aussi, elle a reçu une très bonne éducation, elle parle plusieurs langues, elle pratique la musique, elle élève ses enfants avec fermeté, et tous ses enfants, je dirais que c'est un peu banal, on va pas évoquer Pierre Bourdieu, mais c'est un peu la reproduction. C'est-à-dire que bon, ce grand inspecteur des écoles va former ses enfants à l'éducation scolaire, ils vont tous être prix d'excellence en Russie, ça s'appelle médaille d'or. Hein. Depuis qu'ils ont commencé après les études primaires, qu'ils sont rentrés au gymnase, ce qu'on appelle le gymnase, le lycée, eh bien, ils sont toujours prix d'excellence, médaille d'or. Alors le frère aîné Alexandre, la sœur aînée, et puis ensuite Volodia, et puis les autres suivront. Donc c'est vraiment une famille qui est dans un cursus social tout à fait ascendant. Et avec des enfants brillants, qui font de brillantes études et qui sont appelés en principe, à un cursus, une voie royale, je dirais presque. Hein. Bon, ils seraient en France, ils auraient fait Normale Sup ou Polytechnique. Bon.
Alors, il y a une chose qui m'a fasciné, même si les analogies historiques ont leurs limites, mais en lisant votre livre, alors bien évidemment, vous décrivez le contexte de la Russie, et c'est un contexte, alors Vladimir naît en 1870, et c'est un contexte de réforme, c'est-à-dire que c'est un pays avec une dynastie, certes autocrate, mais réformatrice.
C'est-à-dire, d'abord, il faut bien imaginer ce que c'est que la Russie. D'ailleurs, ce n'est pas la Russie, c'est l'Empire russe, c'est l'Empire des Tsars. C'est le plus grand pays du monde, c'est absolument gigantesque. Hein, ça va de l'océan Pacifique à Vladivostok jusque pratiquement à Varsovie. Ça va du cercle polaire jusqu'à la Méditerranée et à l'Iran, etc. Donc, c'est un gigantesque espace qui est relativement peu peuplé finalement, sauf à l'ouest, qui est très sous-administré, parce que on parle toujours de la bureaucratie tsariste, mais en fait elle est très peu nombreuse. La plupart des régions sont un peu livrées à elles-mêmes, bon, alors bien, sauf les villes qui sont un peu plus administrées. Hein, donc il faut bien imaginer cet immense empire qui est peuplé en minorité de Russes ethniques. Les Russes ethniques représentent moins de 50% de la population, et une population qui, elle, est composée à plus de 85% de paysans, hein, ce qu'on appelle les moujiks. Le moujik, hein. Donc voilà, il faut imaginer ce milieu, et avec donc un immense espace rempli de moujiks, et au milieu de cet espace, il y a des villes, qui sont les éléments un peu de civilisation où voilà, le pays est en train de sortir de sa torpeur, parce qu'il faut bien dire que toute la première moitié du 19e siècle est un désastre pour la Russie. Il y a des tsars là qui sont vraiment très très plus que conservateurs, totalement réactionnaires, très arriérés, et va arriver un jeune tsar qui va justement engager ses réformes.
Alexandre
II, qui engage des réformes, et des réformes très importantes. Alors, réforme de la justice, réforme de l'enseignement, etc. Le père de Vladimir va justement participer à ce mouvement. Et puis surtout, une réforme fondamentale. Il faut rappeler qu'en Russie, jusqu'en 1861, une partie importante des paysans, des fameux moujiks, était en servage, au milieu du 19e siècle, avec des régions qui touchaient à l'Europe. Donc, ça paraissait tout à fait stupéfiant. Et donc, le tsar Alexandre décide, en 1861, de supprimer le servage. Donc, c'est un grand moment de libération, bien entendu, mais qui va poser des problèmes énormes. D'abord parce que, étant libéré du servage, d'un seul coup, le moujik se dit, mais alors, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je ne suis pas propriétaire des terres sur lesquelles je travaillais en servage ? Et donc va se poser d'emblée ce problème de la terre, hein, qui est un énorme problème de la Russie de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'en 1917, hein, puisque ce sera un des deux grands slogans très démagogiques par lesquels Lénine arrivera au pouvoir, la terre. La terre aux paysans, on sait très bien ce qui se passera ensuite. La terre sera reprise, bien entendu, par le pouvoir soviétique. Donc voilà, c'est un milieu très particulier, qui est assez arriéré, et qui en même temps est plein de potentialités. Bon, d'autant que la Russie se révèle un pays très riche sur le plan des minéraux. Il y a des grandes voies de circulation qui sont les grands fleuves, par exemple la Volga. Il y a quand même des possibilités de circulation avec l'étranger, en particulier par la Baltique, bon, en particulier par la mer Noire, en particulier par l'Extrême-Orient. Donc voilà, il y a beaucoup de potentialités. Tout le problème, c'est un petit peu quel va être le destin de ce pays. Ça dépend beaucoup, en fait, du tsar. Parce qu'on est dans un régime politique qui est l'autocratie, c'est-à-dire que le tsar est quasiment le propriétaire de son pays, il a tout pouvoir. Donc, évidemment, c'est une situation tout à fait ahurissante, à côté de laquelle celle de Louis XIV ou de Bonaparte ou de Napoléon III ou de Bismarck sont véritablement des situations de faiblesse politique à côté de la puissance totale du tsar.
Alors, l'analogie historique, parce que j'ai pas terminé l'idée que je voulais te donner à l'origine, c'est que c'est avec Louis XVI, c'est-à-dire Louis XVI, roi réformateur, des réformes qui ne sont pas acceptées par tous, et donc d'où la contestation. Il y a un élément aussi très important contextuel, c'est l'opposition, et on retrouve même encore cela aujourd'hui, entre être slave ou être occidental.
Oui, alors ça, c'est la grande question des intellectuels russes du 19e siècle, hein, entre les occidentalistes qui sont frappés par l'état d'arriération du pays à tout point de vue et qui, en contraste, ont une Europe occidentale qui est en plein essor, industriel bien entendu, mais culturel, économique, politique, puisque ça va être tout le dernier tiers du 19e siècle va être le moment de la grande montée en puissance de la démocratie parlementaire dans toute l'Europe. Bon, donc, il y a des intellectuels qui voient ça et qui disent « Bon, la Russie ne peut pas rester dans cette situation totalement figée qui relève presque du féodalisme. » Et puis alors, il y a les slavisants, ceux qu'on appelle les slavisants, qui disent « Ah mais non, c'est la voie spéciale de la Russie, ça. Hein, regardez ce qui se passe en Occident, c'est atroce, c'est abominable, ce capitalisme, hein, ce monde ouvrier épouvantable, d'exploitation, de misère atroce, etc. Donc, nous, on a une voie bien spéciale, c'est la voie slave, c'est un petit peu la voie de Moscou, la troisième Rome, et notre système autocratique est tout à fait excellent, donc maintenons-le, ne changeons rien. Hein. Donc on a vraiment deux grands courants qui s'affrontent, et évidemment dans chacun de ces courants, il y a des éléments plus extrémistes, je dirais, plus radicaux, et d'autres plus modérés. Bon, hein, mais c'est quand même le grand affrontement.
Alors, la vie de Vladimir Ulianov est marquée, ce sont même deux éléments essentiels, hein, de votre point de vue, par deux moments. Le premier, c'est la mort du père, en 1886, c'est bien cela ?
Oui, mais c'est une mort très, très brutale. Il est frappé par un AVC chez lui. Il va mourir pratiquement devant les yeux de sa femme et de ses enfants, et en particulier...
Il a 16 ans.
De Vladimir, qui a un peu plus de 16 ans, et qui est l'homme de la maison, parce que le frère aîné Alexandre, très brillant sujet, est en train de poursuivre ses études supérieures à Saint-Pétersbourg. Et donc, c'est véritablement un choc. Bon, évidemment, ce serait un choc pour n'importe quelle famille, mais c'est aussi un choc un petit peu économique, parce que c'est ce père qui travaille et qui rapporte de l'argent. Donc, bien sûr, le tsar va donner une pension, etc. Mais bon, la famille va se retrouver un peu dans la gêne, va être obligé de louer des pièces de sa maison à différents locataires, etc. Bon, cela dit, l'enterrement du père de Vladimir se passe vraiment dans les formes d'enterrement d'un notable, avec cérémonie, procession, la cathédrale, etc. Mmh. Hein, sauf que Vladimir, en tant qu'homme de la maison, si je puis dire, même s'il a 15 ans et demi, selon la tradition, il doit porter le cercueil, etc. Donc, il y a déjà un premier choc, d'autant que c'était totalement inattendu. Mmh. Hein, c'était totalement inattendu. Le père s'est senti un petit peu malade dans les jours précédents, etc. Mais rien de bien sérieux. Et puis, d'un seul coup, il s'effondre. Bon. Alors, le deuxième... Donc ça, c'est un premier traumatisme qui frapperait n'importe quel garçon de 15 ans qui voit son père quasiment...
Mais qui ne vous pousse pas vers, j'allais dire, un extrémisme politique révolutionnaire.
Non, ça peut vous pousser à resserrer les liens familiaux, oui. ça peut vous pousser à acquérir une maturité supérieure, parce que voilà, on est confronté à des problèmes sérieux et qu'il va falloir reprendre les choses en main, mais ça ne pousse pas du tout à la radicalisation politique, en principe.
En revanche, le deuxième événement, lui, va être déterminant sur cette radicalisation, c'est Alexandre, qui va être ni plus ni moins condamné.
Alors, Alexandre, donc, ce brillant sujet qui est à Saint-Pétersbourg, qui fait des études de biologie, et qui va se trouver entraîné dans un groupe de révolutionnaires très peu expérimentés qui décident de préparer un attentat contre le tsar. Bon, dans la grande tradition des révolutionnaires russes, depuis les années 1870, les fameux Narodniki, l'objectif c'est, l'idée c'est, on tue le tsar, comme tout le système repose sur le tsar, tout va s'écrouler et on va pouvoir faire une révolution. Le problème c'est qu'évidemment ces jeunes gens sont très inexpérimentés en matière de révolution, et il y a une police politique,
l'Okhrana,
que le tsar a mise en place, et qui évidemment les a pistés, les a arrêtés, les a pris presque la main dans le sac en train de fabriquer des bombes, etc. Et donc, ils vont être condamnés, et Alexandre apparaît un petit peu comme le chef du groupe, c'est le plus brillant, c'est lui le chimiste, donc c'est lui qui fabrique les bombes, et en plus, il a un certain orgueil, donc il va revendiquer, en fait. Il va revendiquer en disant, oui, c'est moi qui ai fait les choses, et quand sa mère, qui est montée en urgence à Saint-Pétersbourg, le supplie de demander la grâce du tsar, parce qu'après tout, il est d'une famille aristocratique, la famille a été anoblie, il refuse. Bon, bah évidemment, s'il ne demande pas la grâce, il ne risque pas de l'obtenir. Et donc, il va être pendu en 1887. Alors là, c'est un choc tout à fait autre, un choc à différents niveaux.
Mais on sait pourquoi ce garçon est allé... On voit, c'est ce qu'on lit, en fait, et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'il n'est pas le seul dans la noblesse, dans la bourgeoisie, à s'engager comme cela vers la voie révolutionnaire.
Oui, parce que, en réalité, donc...
C'est la contestation d'un étudiant,
c'est... Oui, c'est la contestation d'un étudiant, mais il faut bien voir que le tsar Alexandre II a autorisé la multiplication des universités. Donc, évidemment, beaucoup d'étudiants ont commencé des études supérieures. Commençant des études supérieures, beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger, en particulier en Suisse, pour étudier. Et là, évidemment, ils se sont frottés à toutes sortes d'idées qui n'étaient pas du tout répandues en Russie. Toutes les grandes idées démocratiques, toutes les grandes idées socialistes, voire même les idées communistes. Hein. Donc, évidemment, ça circule. Et puis, Alexandre, on découvrira un petit peu plus tard qu'en réalité, il s'est déjà frotté à toutes ses idées, parce que dans la propriété familiale à la campagne, il s'était installé un petit pavillon où il prétendait faire des expériences. En réalité, il s'est constitué une bibliothèque d'ouvrages tout à fait interdits. Bon, et donc, que son frère va d'ailleurs récupérer. Hein. Et donc, il y a déjà ces idées nouvelles qui pénètrent dans l'université et qui circulent très, très rapidement. Il suffit de se souvenir de mai 68 pour voir comment des idées révolutionnaires peuvent circuler très rapidement. Et puis il va être mêlé à deux ou trois manifestations. Il va assister à la répression d'une manifestation, et la répression en général n'est pas tendre. Ce sont les Cosaques qui sont chargés de la répression. Bon, les Cosaques, ce sont des soldats, hein, qui arrivent à cheval, le sabre à la main, et qui vous en flanquent des grands coups sur la tête, en principe sur le plat, mais bon, si c'est sur la tranche, c'est pas pareil. Hein, donc voilà, c'est le vieux cycle provocation-répression. bien connu en 68 et après. Donc voilà, on peut dire véritablement qu'il s'est laissé embringuer comme un jeune idéaliste. Bon. Et qu'ensuite, il est allé trop loin et qu'il a refusé de reculer. Le problème, c'est que son petit frère, Vladimir, va être, qui était très admiratif de son grand frère, parce que son grand frère était vraiment quelqu'un, semble-t-il, de très brillant. On ne le saura pas plus, puisque sa vie s'est interrompue très tôt. Mais le petit frère est très admiratif de son grand frère. Et donc, voilà, il a maintenant un modèle. Alors, d'un côté, il a un modèle. Et d'un autre côté, il a une haine farouche des Romanov, de la dynastie des Romanov, du régime des Romanov. Donc, voilà, on a l'amorce de sa radicalisation, qui est une amorce tout à fait passionnelle, en fait, profondément affective, je dirais. Il va ensuite s'occuper de la rationaliser à travers des lectures.
Alors, justement, autre découverte à la lecture de votre ouvrage, on connaît tous le mot de Lénine, que faire. Or, oui. Ce que faire, il appartient d'abord à un auteur, Tchernychevski, qui va, je vous cite, mais c'est surtout un roman, puisque c'est un roman, qui allait bouleverser sa vie, le fameux Que faire de Tchernychevski, livre de chevet depuis 1864 de trois générations de révolutionnaires russes, comme le rappelle Orlando Figuez, donc qui est un auteur qui a étudié le communisme.
C'est effectivement... Donc ce Tchernychevski, c'est un intellectuel, typique de cette intelligentsia russe déchirée entre slavisants et occidentalistes. Il est évidemment très occidentaliste. Et quand le tsar va supprimer le servage en 1861, Tchernychevski, dans un premier temps, va approuver bruyamment. Et puis ensuite, va se rebiffer en disant « mais ça ne va pas assez loin. Il faut donner la terre aux paysans ». Et là, évidemment, c'est un tout autre problème. Hein. Et donc, il va rentrer en conflit avec le régime, et il va être rapidement arrêté. Et en prison, il va écrire ce fameux roman « Que faire ?», qui va être, comme vous le disiez, le livre de chevet de tous les révolutionnaires russes, et pas seulement russes d'ailleurs. Phénomène d'ailleurs tout à fait classique, je dirais. On a eu exactement la même chose en France en 1968 et après. Il y a eu des romans révolutionnaires. Il y a eu le fameux roman révolutionnaire de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, sur la prise de pouvoir par Lénine. Il y a eu par exemple le fameux livre L'Orchestre Rouge qui faisait fantasmer tous les gauchistes. Donc voilà, bon. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, comment peut-on s'engager en politique sur la base d'un roman ? Si dans ce roman, il y a des éléments qui correspondent étroitement à ce que vous commencez à avoir en tête, c'est-à-dire il faut faire une révolution, on ne peut pas continuer dans cette société est totalement insupportable, il faut aller vers une société nouvelle qui sera parfaite. Donc on commence à s'engager dans l'idée de l'utopie, hein, grande idée fondamentale des mouvements révolutionnaires, bien sûr, l'idée de l'utopie, on va faire une société parfaite. Et puis surtout dans ce roman de Tchernychevski, il y a plusieurs personnages et un personnage central,
Rakhmetov.
Le fameux Rakhmetov, qui est décrit en long, en large et en travers. Or, ce personnage central, c'est le prototype, je dirais, de ce qu'on va appeler le révolutionnaire professionnel. C'est-à-dire un garçon jeune qui ne s'occupe que de faire la révolution, que de renverser le régime et que d'instaurer une société parfaite.
Qui vit dans une forme d'austérité qu'on retrouvera chez Lénine.
C'est plus que de l'austérité, c'est
une ascèse.
C'est une ascèse. Hein. Comme on se consacre jour et nuit à la révolution, alors pas de femme, pas d'alcool, pas de sport, pas de musique, rien de tout ça. Jour et nuit, on ne pense qu'à la révolution. Et bien entendu, on est clandestin. On est clandestin, de manière à ne pas être repéré par la police. Donc déjà là, il y a un personnage fantasmatique, une sorte de héros emblématique qui sort de ce roman. Et immédiatement, Vladimir se reconnaît complètement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est la voie. Il faut aller dans ce sens-là. Hein. Et donc, en plus, bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais dans ce roman, il y a beaucoup de petits signes qui lui parle des prénoms, des situations. Bah, par exemple, Rakhmetov est le fils d'un petit notable qui adhère au régime, etc. En fait, on dirait le père de Lénine. Donc, vous voyez, il y a plein de petits signes comme ça qui, chez lui, hein, pour parler un petit peu vulgairement, vont faire tilt. Quoi. Hein, ça parle. Ça lui parle. Et nous avons en particulier un témoignage très important qui montre que pour Lénine, ce livre a été fondamental. Et vous l'avez rappelé, c'est pas par hasard qu'il a nommé, qu'il a intitulé « Que faire ?» l'un de ses principaux ouvrages dans lequel, justement, il expliquait ce que devait être un parti de révolutionnaires professionnels en 1902.
Et qui, pour le coup, n'est pas un roman. Alors, un autre personnage, un autre intellectuel avant Marx, finalement, qui arrive, c'est Netchaïev. Et dans votre thèse qui explique que c'est bien Lénine qui est le père du totalitarisme, Netchaïev est bien évidemment important.
Alors Netchaïev est très important dans un autre sens parce que Netchaïev ne sort pas du tout de l'intelligentsia. C'est un fils de serf, il a été obligé de travailler dès l'âge de 5-6 ans, hein, parce qu'il fallait gagner sa vie.
Ce que vous appelez, je me permets de vous couper, l'intelligentsia, c'est un terme bien précis.
Oui.
Que vous décrivez dans votre livre, qui correspond à tous ces personnages qui, j'allais dire, ont une maturité intellectuelle et qui sont des révolutionnaires.
Oui, quand on dit intelligentsia pour la Russie, ça ne renvoie pas seulement à des intellectuels. Ça renvoie à une catégorie d'intellectuels qui se pensent presque comme une classe sociale chargée de faire la révolution.
D'accord.
Hein, c'est véritablement ça. Hein, ça doit être compris au sens collectif d'un groupe et pas au sens individuel d'un simple intellectuel. Alors, Netchaïev, justement, bon, c'est le contraire de ça. C'est un gars qui, pour parler un peu vulgairement, sort du caniveau et qui va se faire à la force du poignet et en autodidacte. Il va devenir instituteur et il est animé véritablement de ce qu'on peut appeler une haine de classe. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de lui, tout ce qui est riche, tout ce qui est propriétaire, tout ce qui est même petit bourgeois, c'est insupportable. Hein, c'est des gens qui doivent être balayés. Donc il va s'engager dans le mouvement révolutionnaire. Il va d'ailleurs se créer son propre mouvement, c'est beaucoup plus simple. Hein. Il va rentrer en contact avec un certain Bakounine, un grand anarchiste russe archi connu à l'époque, et il va rédiger un petit texte d'une dizaine de pages seulement, qui s'appelle « Le catéchisme du révolutionnaire », mais qui est très important parce que c'est vraiment le vademécum du révolutionnaire professionnel. C'est le guide pratique. Voilà. Qu'est-ce que doit être un révolutionnaire professionnel? Comment il doit se conduire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit s'organiser? Quelle doit être son action? Etc. Donc là, c'est très précis, c'est très pratique, je dirais. Hein, Netchaïev est un homme très pratique. Et en plus, Netchaïev, alors, va être un personnage totalement emblématique du mouvement révolutionnaire russe. Il va surtout faire une action qui va marquer énormément dans toute l'Europe, parce que ça va être un scandale européen. Il a constitué un petit groupe de révolutionnaires, ils sont très peu nombreux, 5 ou 6 des étudiants. Et il leur a fait croire qu'il était à la tête d'une très grande organisation. Évidemment, il y en a un, l'étudiant Ivanov, qui au bout de quelques mois s'aperçoit que c'est du bidon. Et donc il va dire à Netchaïev, bon ben moi ça va, j'ai compris que tu nous mènes en bateau, donc je quitte le groupe. Et là, Netchaïev dit « Ah non, on ne sort pas d'un groupe révolutionnaire. Hein. » L'autre n'y fait pas attention, mais Netchaïev a déjà décidé de le liquider. Et donc, il va obliger les quatre ou cinq autres à tendre un piège à Ivanov et à l'assassiner, tout simplement. Simplement, comme ce n'est pas encore des assassins professionnels, ils vont jeter le corps dans un étang qui est à côté. Et puis, ils ne savent pas qu'un corps qui est mis dans un étang, ben, au bout de quelques jours, il remonte. Alors évidemment, le cadavre d'Ivanov est découvert, la police arrive, tout se met en branle, on découvre très rapidement qui a fait le coup et pourquoi. Et alors c'est un scandale énorme, parce que les révolutionnaires dans la Russie tsariste sont très mal considérés, mais alors en plus, ils se tuent entre eux. Ça paraît quelque chose d'invraisemblable, et c'est tout à fait... ça va très loin, puisque... c'est à ce moment-là, dans ces journées-là, que Dostoïevski, le grand Dostoïevski, qui est en train de suivre une cure en Allemagne, va découvrir cette affaire dans les journaux. Et immédiatement, il comprend qu'il se passe quelque chose de très particulier. Donc, il va arrêter tout ce qu'il fait et il va commencer à travailler sur cette affaire, à se renseigner, etc., essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il va en sortir ce livre extraordinaire de Dostoïevski qui s'appelle « Les démons », hein, et qui, ou les possédés selon les traductions, et qui est un très grand roman, et qui est presque
le pendant du que faire de Tchernychevski. Autant Tchernychevski décrivait une vie merveilleuse de révolutionnaire, autant Dostoïevski, avec ses capacités extraordinaires de prescience, parce que véritablement, il écrit ça, et ça, 40 ou 50 ans après, on va trouver la même chose. Il décrit toute la psychologie de ces différents types de révolutionnaires.
Et c'est ce livre que Lénine refuse de lire.
Alors, c'est évidemment. Alors ça, pour Lénine, il n'est pas question d'ouvrir Dostoïevski. Pour Lénine, Dostoïevski, tout simplement, c'est, pour parler un peu vulgairement, mais comme diraient les enfants, c'est caca, c'est sale. On ne lit pas ce type de littérature. Bon, tout à fait.
Mais il avait peur de ce que vous expliquez dans votre livre, il avait peur en quelque sorte d'y voir un miroir de ce qu'il faisait.
Inévitablement. Et croyez-moi qu'en mai 68, et après, dans les groupes gauchistes, on ne lisait pas les démons de Dostoïevski, parce qu'on aurait été. On se serait posé de sérieuses questions. En fait, on vivait dans des livres du style de celui de Tchernychevski, qui étaient des romans d'héroïsme révolutionnaire.
Alors, Tchernychevski, Netchaïev, évidemment Marx, et c'est la dernière strate, c'est ce que vous appelez la naissance de l'idéologue. Et encore une fois, on y voit, une des caractéristiques du totalitarisme, c'est la volonté. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que Vladimir ne veut être révolutionnaire, mais il ne va pas près du paysan ou de l'ouvrier, si on peut parler d'ouvrier, qui était une minorité. Non, il devient un scientifique de la politique. Il devient scientiste, en fait, avec tout ce que cela comporte de systématisme et donc d'extrémisme.
Oui, alors, bon, ce qu'il trouve dans Netchaïev, parce que Netchaïev, c'est très clair et c'est très violent. Donc, pour Netchaïev, l'objectif, c'est la destruction totale de la société en place. Qu'est-ce qu'on fera après? C'est pas notre problème, les générations futures s'en occuperont. En attendant, la violence est à l'ordre du jour. Bon, donc ça, c'est déjà un élément très important pour Lénine. Ensuite, il découvre Marx. Et là, chez Marx, il découvre une doctrine, en particulier dans le Manifeste du Parti communiste, qui est un texte à la fois très fort, très messianique, et en même temps assez primaire. Parce que un texte qui vous explique que toute l'histoire du monde, c'est l'histoire de la lutte des classes, et que c'est l'histoire de la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, et que la bourgeoisie sera vaincue violemment par le prolétariat pour instaurer le socialisme ou le communisme. Bon, c'est quand même une vision très primaire de l'histoire et de la société. La Grèce antique, les Romains, tout ça, où est-ce que c'est passé entre-temps? Bon, il n'empêche que cette vision, à la fois très primaire et très messianique, alors elle va frapper très fortement Vladimir. Il découvre ça petit à petit dans les années 1890, 95, etc. Et effectivement, il y a dans Marx un élément que Marx veut scientifique. Hein, c'est justement tout son travail sur le capital, la théorie de la valeur, etc. Il essaye de trouver des justificatifs scientifiques à cette théorie de la lutte des classes. Bon, on sait très bien que tout ça ne tient. Aujourd'hui, on sait très bien que tout ça ne tient pas debout. Mais dans le troisième tiers du 19e siècle, ça pouvait paraître compréhensible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui y adhéraient. Et pour Vladimir, c'est vraiment une confirmation. C'est-à-dire, on n'est plus maintenant dans une approche romantique de la révolution. On est dans une approche scientifique. On sait quelle a été l'histoire du monde et de la société. On sait ce qu'elle doit être en fonction de ce que raconte Marx. Donc voilà, on n'a plus le choix. Si on ne marche pas dans la voie de la révolution socialiste, soit c'est qu'on est un ignorant, un ignare, donc on ne représente rien, on ne présente aucun intérêt, soit on est quelqu'un qui refuse de comprendre ça. Donc on est une canaille contre-révolutionnaire. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Le problème, c'est que cette vision marxiste, en réalité, c'est une vision scientiste, c'est-à-dire c'est une vision qui se veut scientifique, mais qui ne repose en réalité sur aucune base précise, surtout en Russie. Dans un pays où il y a 85% de paysans, et de petits paysans misérables qui sortent du servage, etc., où la classe ouvrière est quasi inexistante, où le capitalisme est encore très faible dans les années 1880, qu'est-ce que cette analyse peut bien vouloir dire? Bon. Et d'ailleurs, pour Marx lui-même, pendant très longtemps, la Russie, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le fief de la réaction, de l'obscurantisme, etc. Il n'y a rien à tirer de la Russie. Il n'y aura pas de révolution en Russie. Quand les Narodniki commencent leur série de tentatives d'assassinat contre le tsar, puis d'assassinat, parce qu'ils vont finir par l'assassiner, ce cher Alexandre II. Alors, Marx commence à se dire, ah, mais c'est que il y a des gens sérieux, là, qui sont prêts à passer à l'action. Il faut peut-être revoir notre position. Donc, il commence à apprendre le russe. Il le fait justement pour essayer de lire Tchernychevski, le fameux que faire, hein. Il va avoir des relations avec les premiers socialistes russes, une grande socialiste, terroriste très connue, une des premières terroristes, Vera Zasulich. Ils vont avoir des échanges de lettres. Est-ce que vous ne pensez pas que, etc. Dans certaines préfaces du manifeste du Parti communiste, Marx va dire, ah, mais si, oh là là. Justement, entre guillemets, c'est peut-être parce que la Russie est arriérée et qu'elle a un mode de production communautaire chez les paysans, puisque les paysans vivaient en gros sur le village, en village, eh bien, c'est peut-être une forme première de communisme et qui pourrait favoriser l'accélération d'une révolution communiste en Russie. Si ça se trouve, il y a déjà dans cette paysannerie russe les bases de la société communiste. Donc, alors évidemment, tout ça, pour Lénine, c'est, j'allais dire, si je peux me permettre, c'est pas béni. Bon, non, mais il est enthousiaste. Et il devient une espèce de fanatique marxiste, c'est-à-dire toute personne qui n'applique pas à la virgule Marx est fusillée en parole, pour l'instant, immédiatement. Et alors, Lénine bombarde, si je puis dire, ses adversaires à coups de citations. Dans le Capital, Marx a dit, dans le Manifeste, Marx a dit, dans l'idéologie allemande, Marx a dit, etc., etc. Bon. Donc là, on rentre vraiment dans un processus idéologique totalement doctrinaire et fanatique.
Alors là, on part du parcours intellectuel. Mais il y a un moment très important dans sa vie, après la mort de son frère, en 1895, puisque face à toutes ses activités, face à tout, j'allais dire, ses écrits, ses fréquentations, eh bien, l'Okhrana veille et l'Okhrana l'envoie en déportation en Sibérie. Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs, et visiblement, l'envoi en déportation en Sibérie sous le régime tsariste et l'envoi en déportation en Sibérie sous le régime stalinien, c'était pas la même chose. Et, en fait, vous en faites quasiment une sorte de cure de jouvence où il vivait, permettez-moi l'expression, sans aucune pression autre que celle de l'interdiction d'aller à Moscou et à Petrograd.
Oui, c'est tout à fait étonnant. Bon, alors évidemment Vladimir, qui n'est pas encore Lénine parce qu'il ne prendra ce pseudonyme que plus tard, Vladimir est monté à Saint-Pétersbourg pour faire des études supérieures. Avec un petit groupe, ils commencent à avoir des réunions, essayer de contacter des ouvriers, etc. Ils sont très vite repérés, ils sont arrêtés, et ils vont être... Alors ça va traîner un peu, bon, il va être en prison. Il est extrêmement choqué d'ailleurs, hein. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Un beau matin, les policiers viennent l'arrêter chez lui. Vladimir Ulyanov, noble par le tsar, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas encore fait la relation, je dirais, entre ses engagements idéologiques, etc., et puis le fait que c'est une activité révolutionnaire qui va entraîner des conséquences. Bon, là, il commence à comprendre, et en même temps, ça se passe effectivement très bien, parce qu'il est envoyé en Sibérie dans un coin très agréable, très beau, il est logé dans une isba. Le gouvernement lui verse un petit pécule. Bon, il demande à ce que sa fiancée vienne le rejoindre. Bon, pas de problème.
Sa fiancée peut le rejoindre.
Sa fiancée, la fameuse Nadejda Krupskaya, vient le rejoindre. Est-ce que c'est un mariage blanc entre révolutionnaires? C'est possible, parce que c'était très classique chez les révolutionnaires. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre? Je n'en sais rien, je n'y étais pas. Mais, en tout cas, voilà. Et alors là, il est ravi, parce qu'il est au calme. Alors, c'est un homme qui adore la nature. Hein. Lénine est un homme qui adore la nature, qui adore le sport. Il fait énormément de marches, il va à la chasse aux champignons, là il est ravi, il chasse, il a un fusil, il va chasser, etc. Hein? C'est des espèces de grandes vacances.
Il fait des travaux alimentaires.
Alors, il fait des travaux alimentaires de traduction, etc. Mais surtout, il se fait venir des centaines de kilos de livres qu'on lui envoie, tout à fait légalement, et dans lesquels il va piocher des milliers de statistiques, et il va commencer à rédiger un énorme ouvrage sur le capitalisme en Russie. Il va donc essayer, par tous les moyens, à coup de statistiques, de démontrer que ça y est, la Russie est passée au capitalisme, et comme elle est passée au capitalisme, on peut déjà passer au socialisme. Ce qui est la théorie marxiste. Bon, comme vous savez, les statistiques, on peut évidemment leur faire dire absolument tout, et le contraire, hein, comme disait Churchill, enfin c'est ce qu'on lui attribue comme phrase, hein, je ne crois à aucune statistique sauf celle que j'ai moi-même truquée. Bon, donc c'était assez dire. Donc voilà, hein, évidemment que Lénine a pioché dans tout un tas de des centaines d'ouvrages qu'il a fait venir, des revues, etc., des statistiques qui confortent son analyse. Évidemment, il a laissé de côté celle qui pourrait la contredire. Bon, évidemment, quand son livre va sortir, un certain nombre d'économistes socialistes, marxistes, qui sont déjà connus et qui sont professeurs d'université, etc., qui lisent ça, disent « Bon, c'est pas possible, comment peut-on écrire des choses pareilles ?» Mais Lénine en a cure. En 1900, il a fini son temps de déportation et il va partir à l'étranger, en exil, et il va donc y rester quasiment tout le temps jusqu'en 1917.
C'est la troisième crise existentielle après la mort du père, la mort du frère. Là, c'est la mort du maître, en quelque sorte, puisqu'il n'est pas d'accord avec un révolutionnaire qui le déçoit fortement en Suisse.
Oui, pendant toutes ces années, il y a un révolutionnaire russe, socialiste, marxiste, un des fondateurs du marxisme russe, qui s'appelle Georges Plekhanov, qui a été obligé de s'exiler depuis longtemps. Il est plus âgé, évidemment, que Lénine, et il vit en Suisse. Et pour Lénine, ce Plekhanov, c'est véritablement le maître. Voilà. C'est l'homme qui devrait être à la tête de tout le mouvement socialiste et marxiste russe. Et évidemment, dès qu'il peut partir à l'étranger en 1900, il se précipite en Suisse et il se précipite chez Plekhanov en se disant « Ça y est, je vais enfin rencontrer le maître et nous allons faire des choses extraordinaires ensemble. » Bon, le problème, c'est que en rencontrant le maître, il lui fait des propositions. Il lui propose de créer un journal et il est déjà, Lénine a déjà un ton assez autoritaire et il se voit déjà un grand destin à la tête de tous les socialistes russes. Hein. Alors évidemment, il tombe sur ce Plekhanov qui est un vieux routier, hein, qui a été un narodniki d'abord, c'est-à-dire un terroriste, ensuite qui a considéré que le terrorisme n'allait mener à rien, il fallait plutôt aller vers une lutte politique, puis ensuite découverte de Marx et traduction de Marx en russe, etc. Bon, donc c'est un vieux routier qui en a vu d'autres, qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce blanc bec qui vient me donner des leçons et me dire qu'est-ce que je dois faire et ceci, cela. Donc finalement ça se passe très mal, et alors là il y a un texte étonnant de Lénine, parce que Lénine est un homme qui parle très très peu de lui-même, qui ne fait très peu de confidences. On a très peu de confidences de Lénine, que ce soit par écrit ou que ce soit devant des témoins. Des confidences sur sa pensée intime, profonde et ses émotions surtout. Il a bridé totalement ses émotions. Et là, il y a dans ses œuvres, y compris en français, le compte-rendu à une espèce de petit journal qu'il a tenu des quelques jours où il a rencontré Plekhanov et comment ça s'est passé. Et alors, c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est un texte littéralement psychanalytique. C'est-à-dire, voilà, il pensait avoir retrouvé un père, ce père le rejette, donc, il va assassiner le père, il va mener sa propre vie de père lui-même, etc. C'est tout à fait étonnant.
C'est à cette époque qu'il devient narcissique.
Oui, je crois que oui, c'est-à-dire que jusque-là, il se pensait un destin, mais un destin peut-être sous l'autorité de Plekhanov, de quelques autres, de Vera Zasulich, parce que Plekhanov, en Suisse, avait constitué un groupe avec Vera Zasulich en particulier. Bon. Mais là, il largue les amarres, hein, c'est-à-dire, bon, maintenant ça suffit, je vais faire mes affaires moi-même, parce que je suis assez grand, et que je suis assez brillant, et que je sais parfaitement qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à la révolution. Voilà. Hein. Et donc là, il y a effectivement un petit moment de mégalomanie, d'hyper-narcissisme. Pas de narcissisme, parce que le narcissisme est quand même un sentiment tout à fait naturel chez chacun, sinon on serait tous déprimés et en train de se jeter dans la Seine. Mais c'est vraiment, ça commence à être vraiment de l'hyper-narcissisme. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il se dit « j'ai raison ». J'ai toujours raison. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ont toujours tort. Hein. Donc voilà, ça c'est très important. Et puis un élément parallèle qui commençait à apparaître de volonté de puissance, et même de volonté de toute puissance, qui va se manifester très très vite. Hein. Parce que là, on est en 1900. En 1902, il va publier son Que faire, où il va jeter vraiment comme un pavé dans la vitrine à la tête de tous les socialistes russes son idée du parti, en disant « ça suffit, vous voulez faire une espèce de parti socialiste démocratique, tout ça, c'est absurde, il nous faut un parti de révolutionnaires professionnels. Et j'en serai le chef. Bon, donc votre chef. Et si vous n'acceptez pas, je vais vous combattre pied à pied et férocement. »
Alors, que faire est publié sous le pseudonyme de Lénine.
Voilà. C'est là qu'il prend son pseudonyme.
Il l'avait utilisé une première fois lors d'un article à l'automne 1901. D'où vient, Stéphane Courtois, le terme, enfin le nom de Lénine?
Alors, c'est une chose très intéressante et qui vient de Netchaïev. Hein. Netchaïev, dans sa description du révolutionnaire professionnel, commence tout de suite en disant « le révolutionnaire professionnel n'a pas de nom ». Bon, évidemment, puisqu'il est dans la clandestinité, il est sous pseudonyme. Et tous ces révolutionnaires, que ce soit Trotsky, Staline, Zinoviev, Kameniev et tous les autres, vivaient tous sous pseudonyme. Et pas sous un seul pseudonyme, sous des dizaines de pseudonymes. Ils signaient des articles, etc., un peu partout. Ils circulaient dans la clandestinité sous le pseudonyme de Pierre, de Paul, de Jacques. Bon, donc, Lénine, finalement, va adopter ce pseudonyme. Et à cause du Que faire qui va avoir un tel retentissement dans le mouvement socialiste russe et même international, eh bien, ce pseudonyme-là va finalement rester. Il vient de la Léna, qui est un fleuve, près duquel il avait été déporté en Sibérie.
Déportation visiblement difficile, auquel il associe son nom. À laquelle
Bien sûr. Mais cela dit, c'est peut-être un hasard, parce qu'il a publié sous d'autres pseudonymes. Simplement, comme le Que faire a eu un tel écho, alors il l'a gardé, évidemment, parce que...
Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Courtois, pour cette intervention. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Lénine, l'inventeur du totalitarisme », paru aux éditions Perrin. J'ai bien d'autres ouvrages, toujours chez Perrin. Nous avons reçu une fois Alexandre Zumpf à propos de Rasputin. Il a publié 1917, « La Russie et les Russes en révolution ». Chez Payot, j'ai également reçu Le train de la révolution, Lénine 1917, et enfin dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont, Le Goulag, témoignages et archives, une édition établie, annotée et présentée par Luba Jurgensen et un certain Nicolas Vert. Vous connaissez cet ouvrage?
Oui, bien sûr, ça vient de sortir, c'est sorti il y a un mois et demi. C'est absolument remarquable. C'est un gros ouvrage en collection bouquins, il y a plus de 1000 pages. Et c'est précédé d'une très longue préface d'une centaine de pages de Nicolas Vert et Luba Jurgensen, qui est vraiment que je ne peux que recommander, parce que c'est une synthèse absolument remarquable de ce qu'on sait, de ce qu'on comprend du goulag aujourd'hui. Et quant au reste du livre, c'est-à-dire les 900, presque plus de 1000 pages qui suivent, ce sont des récits. C'est un recueil de récits sur le goulag, du goulag, classés selon différents thèmes, etc. Alors, c'est vraiment une somme, si vous voulez. Hein. Toute personne qui s'intéresse au goulag est maintenant obligée de passer... d'acheter ce petit livre. Quand je dis petit par le prix et gros par la taille.
Merci beaucoup, Stéphane Courtois. Et je remercie nos auditeurs. Je remercie Georges à la technique. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand entretien.